Toujours pas de date pour les prochaines élections provinciales. Le texte de loi organique a été renvoyé cette nuit par les députés en commission mixte paritaire. Explication dans ce journal. Des craintes budgétaires pour l'année 2026, constat dressé lors du débat d'orientation budgétaire de la province sud qui souhaite malgré tout maintenir son niveau d'investissement de 10 milliards. L'homme qui a incendié 4 véhicules Faubourg Blanchot a été placé en détention provisoire. Sans revendication particulière, il était alcoolisé au moment des faits. En métropole, les LR jouent l'apaisement à l'égard des 6 membres du parti qui ont rejoint le gouvernement Le Cornu. Ils ne sont pas exclus, mais simplement suspendus de leurs fonctions internes. Laurence Descartes, auditionnée par la commission des affaires culturelles du Sénat, la présidente du musée du Louvre, connaît un échec après le vol des bijoux en début de semaine. Et puis le sport, avec la suite de la 3e journée de la première phase de Ligue des Champions, Marseille s'incline 2-1 au Sporting Portugal. Monaco fait match nul 0 partout à domicile face à Tottenham. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Patrick Martin poursuit sa visite sur le territoire. Le président du MEDEF national est accompagné par Bruno Arcadipane, le vice-président du MEDEF et président d'Action Logement. Hier soir, ils ont animé au Théâtre de Lille une conférence avec Mim Sidélé, la présidente du MEDEF-NC, au cours de laquelle ils ont évoqué les défis de l'économie calédonienne et la situation en métropole. Notez qu'ils seront tous les trois les invités des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, que vous retrouvez comme chaque semaine à la fin de ce journal. Une réponse politique à une obstruction politique. L'Assemblée nationale a renvoyé vers une commission mixte députés-sénateurs la proposition de loi organique qui vise à reporter les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. C'est la parade trouvée par la majorité pour contourner les murs d'amendements érigés par la France insoumise, Elisabeth Noir.
Un barrage assumé par les députés LFI qui avaient déposé, nous en parlions hier, près de 2000 amendements sur cette proposition de loi organique qui ne compte que 3 articles et qui vise à reporter à juin 2026 les élections provinciales. LFI base son obstruction sur la position du FLNKS qui refuse l'accord de Bougival et qui veut le maintien des élections avant la fin du mois de novembre. Mais le dépôt de plus de 1600 amendements rendait les débats interminables et faisait peser un réel danger puisque le débat budgétaire doit débuter dès ce jeudi. En ouverture de la séance, hier soir pour nous, les principaux orateurs ont très directement mis en cause l'obstruction des députés LFI. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, s'est directement adressée à eux.
Qu'y a-t-il de plus antidémocratique que de bloquer le débat, d'empêcher le vote ici, dans le lieu d'exercice de la démocratie? C'est d'une incohérence totale, c'est vous qui faites un déni de démocratie. Vous voulez faire en réalité de la Nouvelle-Calédonie un champ de bataille national, un champ de bataille politique parisien au détriment du territoire et de ses acteurs. Et ça, c'est une faute politique grave. Ce qui se joue là-bas, je le redis, dépasse les affrontements partisans. Ce qui se joue, c'est la stabilité d'un territoire, c'est la sécurité de nos concitoyens, c'est la parole donnée. Je vous invite à prendre de la hauteur, vous en avez encore le temps, retirez vos amendements pour laisser la démocratie suivre son cours.
Une obstruction fustigée également par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ou encore par Philippe Gosselin, le rapporteur LR de la proposition de loi.
Je déplore le choix qui a été fait par le groupe de la France insoumise de déposer plus de 1600 amendements sur ce texte de 3 articles. Il s'agit là d'une tentative plutôt grossière d'embolisation du débat parlementaire, d'obstruction parlementaire. Vous ne vous en cachez d'ailleurs pas, collègues insoumis, dans vos exposés sommaires. Je regrette surtout que cette manœuvre nuise à la lisibilité de nos débats. Elle me paraît surtout irresponsable, tant la Nouvelle-Calédonie attend du sérieux et mérite mieux.
Mais pour contrer la tactique de la France insoumise, le député Nicolas Metzdorf, appuyé par son collègue Vincent Cor, a choisi de déposer une motion de rejet préalable du texte, une initiative annoncée par Yael Braun-Pivet.
Je vous indique que j'ai reçu de M. Vincent Cor et M. Nicolas Metzdorf une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 de notre règlement.
Et après le dépôt de cette motion, après cette initiative, le débat s'est réorienté sur la motion de rejet qui devait être adoptée par une majorité de députés. Chacun des groupes s'est exprimé sur le sujet en commençant par le député Vincent Cor.
Cette motion de rejet préalable, elle n'est bien entendu pas un changement de position pour notre groupe quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe Ensemble pour la République et moi-même restons pleinement fidèles à l'accord de Bougival et au calendrier constitutionnel qui en découle pour sa mise en application. Nous demeurons fermement convaincus du bien fondé, du chemin qui se dessine, il est d'envergure. Cette motion de rejet préalable, c'est surtout une réponse à une pratique politique et délibérée d'un groupe, la France Insoumise. Cette pratique, elle porte un nom, malheureusement, l'obstruction parlementaire à outrance. Et elle n'a aujourd'hui qu'un seul objectif, faire obstacle à l'adoption de cette proposition de loi organique et donc empêcher l'application de l'accord de Bougival. Car en réalité, ce que cette obstruction refuse, c'est bien la stabilité et la reconstruction pour la Nouvelle-Calédonie. Cette motion de rejet préalable, c'est une réponse politique à une obstruction politique.
Le rapporteur Philippe Gosselin a soutenu cette motion de rejet en déclarant aux députés LFI que c'est une réponse politique et une démarche politique visant à torpiller le débat. Soutien également du président Renaissance de la Commission des lois, Florent Boudier.
Vous n'avez qu'une intention aujourd'hui, c'est de mettre une huile brûlante sur une situation déjà infamable. Et ça, c'est une erreur politique et c'est irresponsable. 1631 amendements, c'est une obstruction. Et donc, cette motion de rejet, nous en sommes désolés, mais c'est la seule façon de laisser au projet d'accord de Bougival la possibilité de prospérer dans le dialogue entre les acteurs calédoniens, avec ce tiers de confiance que doit rester dans la situation actuelle l'État français, notamment le gouvernement. Et donc, je le dis très sincèrement, en tant que président de la Commission des lois, cette motion de rejet n'est pas une motion de rejet de la proposition de loi organique, chacun l'a compris, mais je veux le redire, c'est une motion de rejet de l'obstruction et d'un blocage indécent.
Les deux députés calédoniens ont bien sûr pris la parole dans le débat. Le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou s'est surtout vivement défendu d'avoir renié sa signature de Bougival.
On a signé le document parce qu'il nous a dit que c'est un projet d'accord. À quel titre aujourd'hui on vient discuter, poser sur la table un projet de report des élections provinciales pour nous faire valoir cet accord. Il a été publié au journal officiel sans la mention des signataires, sans la mention même de projet. Je veux dire, vous ne pouvez pas venir nous donner des leçons. Vous n'y étiez pas. Moi, j'y étais. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que le ministre a dit. Nous, on n'a qu'une seule parole. On l'a tenue. Celui qui a manqué à sa parole, c'est l'État. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait et on joue avec notre vie à chaque fois que les décisions sont prises ici au sein de l'Assemblée. Nous, on sait déjà que là-bas, ce projet de texte, il réalimente la tension, la fébrilité, les frustrations. C'est pour ça qu'il faut redonner la parole au peuple. C'est les assises mêmes de la démocratie. Ça fait 7 ans qu'on reporte les élections, qu'on a un mandat. Donc on demande la tenue des élections provinciales pour conforter l'assise de ceux qui sont autour de la table pour porter les discussions institutionnelles sur la sortie de l'accord de décolonisation.
Et le député Nicolas Metzoff lui a répondu directement en s'adressant à lui et en lui rappelant que lui aussi était à Bougival.
Je retiendrai simplement qu'en allant là-bas, tous les deux avec nos délégations, on a avancé comme personne n'avait avancé ces 7 dernières années sur la Nouvelle-Calédonie. Nous avons accepté des choses que jamais nous puissions penser accepter, les non-indépendantistes. On a accepté un État dans l'État, une nationalité calédonienne dépendante de la nationalité française, une loi fondamentale inscrite dans la Constitution de la République française. Et nous avons eu beaucoup de mal à l'expliquer sur place, à nos militants, à nos adhérents, à nos électeurs. Mais nous l'avons fait pour le bien de la Nouvelle-Calédonie. On est conscient d'une chose, c'est que rien ne se fera les uns sans les autres. Personne n'emportera 100% d'une solution idéale dans son camp. Et s'il faut encore prendre le temps de rediscuter, d'amender, de préciser les choses pour qu'on puisse emmener un maximum de gens sur l'accord de Bougival ou sur un accord consensuel, quel qu'il soit. Prenons ce temps-là. Chers collègues, je t'invite et j'invite l'Assemblée nationale à nous aider à poursuivre les négociations. Nous, les non-indépendantistes, nous y sommes prêts parce que nous voulons à tout prix le bien-être de la Nouvelle-Calédonie et pour l'image de la France aussi.
Et la motion de rejet préalable a été adoptée par une très forte majorité. 257 voix contre 105. Le Rassemblement national a voté la motion de rejet. Les socialistes, en revanche, qui soutiennent le report, n'ont pas voté la motion qui visait à contourner les amendements. Cette motion de rejet permet en fait de renvoyer le texte devant une commission paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs. Commission mixte paritaire qui se réunira dès lundi avant un dernier vote nécessaire dans chacune des deux chambres. La conférence des présidents du Sénat a déjà inscrit le scrutin à son ordre du jour mercredi prochain. C'est à ce moment-là que la loi organique devrait être adoptée définitivement. Et puis à noter ce commentaire du député Nicolas Metzoff sur sa page Facebook. Nous avons réussi à déjouer, écrit-il, la stratégie de la France insoumise qui, avec ses 1600 amendements sur la Calédonie, voulait enterrer le texte sur le report des élections. Mais à malin ennemi, j'ai donc déposé une proposition de renvoi de la loi dans une commission entre le Sénat et l'Assemblée. Ce n'est donc pas fini, mais c'est encore un pas de plus de gagné.
Notez qu'un cœur, une voix écrite aux parlementaires. Dans une lettre ouverte, l'association demande aux députés et sénateurs de rendre justice à des milliers de Français en décalant les provinciales. Maintenir les élections en novembre reviendrait à pérenniser une mesure injuste. Nous sollicitons votre soutien pour rétablir la vérité et dénoncer l'injustice et l'infamie subie par des milliers de Calédoniens écartés du droit de vote, ce qui est une privation intolérable, écrit l'association Un cœur, une voix. L'année 2026 pourrait être plus difficile que 2025. C'est ce qui ressort du débat d'orientation de l'Assemblée de la province Sud qui était tenu ce matin. Après les violences de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie fait face à une baisse importante de ses recettes fiscales, Nicolas Legrand.
Oui, en 2023, le budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire ce qui finance l'ensemble des collectivités du territoire, était de 114 milliards de francs. Il est tombé à 86 milliards en 2024, 73 cette année, avec toutefois un complément de 25 milliards de francs lié aux prêts garantis par l'État. En 2026, l'assiette est estimée à 98,8 milliards. La province Sud veut donc anticiper les aléas d'une évolution fiscale encore fragile et incertaine. Objectif, maintenir une enveloppe d'investissement à au moins 10 milliards de francs pour soutenir l'économie et maintenir le fonds de roulement autour de 60 jours. Sonia Baquès, la présidente de la province Sud.
Les finances de la province sont obligées d'absorber en fait le choc financier depuis les émeutes. On essaye d'avoir la gestion la plus responsable possible. C'est pour ça qu'on a un fonds de roulement qu'on essaye de conserver. C'est pour ça qu'on maintient un niveau de trésorerie suffisant. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on ne sait pas de quoi sera fait 2026. On ne sait pas si on aura de nouvelles aides de l'État puisque le prêt garanti va être complètement consommé cette année. Et de dire, nous, on veut absolument maintenir notre niveau d'investissement parce que l'investissement, c'est des gens qui travaillent. C'est-à-dire que concrètement, quand on a un chantier, ce sont des entreprises qui bossent. Donc, ça apporte quelque chose à l'économie. Donc, malgré toutes les difficultés, on essaye de maintenir un niveau d'investissement important. Et pour ça, il faut avoir un peu de marge de manœuvre. C'est ce qu'on essaye de faire difficilement.
Donc sur quoi vous faites des coupes ?
On fait des coupes sur absolument tout. Le fonctionnement, les subventions, les interventions. Puis on fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts sur la masse salariale. C'est notre plus gros poste d'économie, la masse salariale.
Les élus ont donc procédé au débat d'orientation budgétaire, première étape vers l'adoption du budget primitif 2026. Mais avant cela, ils ont dû voter une décision modificative du budget 2025 pour l'ajuster. Il faut trouver environ 80 millions de francs en fonctionnement sur les trois derniers mois de l'année. Et pour cause, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait estimé la perte de recettes fiscales à 35 milliards en 2025. Ce sera finalement 55.
Nous, on a été informés en septembre. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de réajuster en cours d'année uniquement sur les trois derniers mois. Et finalement, on est obligé de contraindre, puisqu'on n'a que trois mois pour faire ces économies-là, énormément nos dépenses, de manière à rentrer dans cette nouvelle enveloppe. Et encore une fois, on ne sait pas ce que sera 2026. Nous, ce qui est très important, et je pense que c'est important que les Calédoniens et les entreprises le sachent, c'est qu'on priorise deux choses. Un, payer nos factures. On s'est retrouvé dans une situation l'année dernière où, parce que le gouvernement avait 8 milliards de dettes envers la province, on ne pouvait plus payer à temps nos mandats, les entreprises qui travaillaient pour nous. Ça, c'est terminé. Les entreprises, quand elles travaillent pour nous, elles seront payées. Ça, c'est fondamental pour nous. Et deux, les salaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse continuer à payer les salaires des fonctionnaires parce que sinon, évidemment, c'est l'économie qui s'effondrerait encore plus.
Et enfin, au cours de cette séance sans réel débat, les élus ont adopté le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta et ils ont également voté pour remplacer Naya Wateu au conseil d'administration du SMTU. L'actuelle présidente cède sa place au conseil d'administration à Jean-Gabriel Favreau, ce qui signifie qu'il y aura une élection pour désigner le nouveau président du syndicat mixte des transports urbains.
11h43, une première pause dans ce journal et on se retrouve dans un petit instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Avec Magie, du 1er septembre au 31 octobre, tente de remporter 2 millions de francs en bon d'achat. Achète un paquet de nouilles Magie et si tu as de la chance, tu y trouveras un paquet gagnant. Tu peux aussi jouer gratuitement chez Nestlé NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Maître Citrita.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Quatre véhicules incendiés en début de semaine, Faubourg Blanchot. L'homme interpellé a reconnu les faits. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour destruction par incendie de plusieurs véhicules, accompagnés de vols et de tentatives de vol. Charlotte Coulson.
Mauvaise surprise pour le gérant de l'atelier Gourmand mardi matin, lorsqu'il découvre son véhicule de travail entièrement calciné devant sa boutique. On imagine la même consternation pour les propriétaires de deux voiturettes brûlées et d'une citadine incendiée la même nuit. Moins d'une semaine après les faits, le parquet communique sur les circonstances de ces actes. Il ressort de l'enquête qu'un homme âgé de 22 ans, déjà condamné pour des vols aggravés et destruction de biens publics, serait à l'origine des destructions. Il a en tout cas reconnu les faits. Il aurait, au cours de la soirée, dégradé plusieurs véhicules, puis après avoir consommé alcool et cocaïne, mis le feu au fourgon de la société L'Atelier Gourmand. Énervé de ne pas y trouver de la nourriture, a-t-il dit. Plus tard, il incendie deux voiturettes, feu qui se propage à une Citroën garée à proximité. Et c'est un peu plus tard que l'homme est interpellé par la police municipale avec 1,2 g d'alcool dans le sang. Au total, écrit le procureur de la République Yves Dupas, trois véhicules ont été totalement détruits et un quatrième dégradé. L'auteur présumé encourt la peine de 10 ans d'emprisonnement. Il a été placé en détention provisoire.
C'est le commandant Damien, le chef de l'antenne du RAID en Nouvelle-Calédonie, qui était ce matin notre invité à 7h30. Le RAID fête en effet aujourd'hui le 40e anniversaire de sa création, Lionel Sabot.
C'est en effet le 23 octobre 1985 que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Jox, signe le décret qui porte création officielle de cette unité d'élite de la police nationale. Le RAID, pour recherche, assistance, intervention et dissuasion, est donc né il y a 40 ans, dans un contexte sécuritaire très particulier en métropole, un anniversaire que le commandant Damien, qui est membre du RAID depuis 16 ans, est très fier de fêter.
Cet anniversaire, c'est toujours un grand moment pour nous, puisque c'est l'occasion de se retourner sur notre histoire, et puis d'avoir des contacts intergénérationnels entre opérateurs, de se rassembler, et de faire un petit point sur cette histoire chargée de l'unité.
Pourquoi est-ce qu'elle a été créée, finalement, cette unité ?
Suite aux attentats aux Jeux Olympiques de Munich, beaucoup de pays se sont interrogés comment faire face à ce type de crise. Ouais. Donc la décision a été prise de créer des groupes d'intervention au sein de la police nationale pour pouvoir faire face avec des policiers spécialisés, équipés, entraînés, pour faire face à ce genre de crise et de situation.
1985, donc création du RAID, mais il existait déjà une autre unité spécialisée dans la police nationale, c'est le GIPN, c'est ça ?
Il y avait des GIPN et en 2014, suite à la vague d'attentats qui a touché la France, Bernard Cazeneuve a décidé de regrouper l'ensemble des unités d'intervention sous la coupe d'un seul chef, le chef du RAID.
Et aujourd'hui, le RAID, c'est un quartier général basé à Bièvre, dans l'Essonne, en région parisienne, mais c'est aussi 16 antennes réparties sur l'ensemble du territoire national. Parmi ces antennes, celle de Nouméa qui a été créée en 2018. Elle est composée de 18 personnels, parmi lesquels 5 négociateurs. L'unité du RAID qui intervient dans plusieurs domaines, nous expliquait ce matin le commandant Damien.
Ça va être principalement tourné sur notre cœur de métier, prise d'otages, forcenés, toutes ces situations de crise qui peuvent être à haut risque, et l'interpellation de malfaiteurs dangereux ou violents.
Les prises d'otages, il n'y en a pas tous les 4 matins en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, lors d'une journée sans intervention du côté du RAID ?
Une journée normale sans intervention, c'est aussi consacré au soutien aux services d'investigation de la police judiciaire. Ouais. On est en Nouvelle-Calédonie, c'est des missions qui nous sont dévolues, mais c'est aussi une grosse part consacrée à l'entraînement, notamment dans nos spécialités, puisque les spécialités des agents sont très nombreuses, entre le sniping, l'avarap, l'aérocordage, la négociation. Ce sont des choses à travailler au quotidien pour être performant le jour d'intervention.
Le commandant Damien, chef de l'antenne du RAID de Nouméa, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, une interview qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS et voici notre question du jour. Trouvez-vous normal que des détenus du camp Est fassent un recours contre l'État pour protester contre leurs conditions de détention ? Si vous trouvez cela normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas comprendre la démarche du groupe UCFLNKS qui demande la démission du président du gouvernement. Ils ne sont que 5% à dire qu'ils la comprennent. En bref, Patrice Faure est le nouveau préfet de police police de Paris, l'ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, qui était depuis près de 2 ans directeur de cabinet du président de la République, a été nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur. Vu la sensibilité du poste, cette nomination a été validée par le chef de l'État. Patrice Faure remplace donc Laurent Nunez, devenu ministre de l'Intérieur. Le Conseil des ministres qui a également nommé un nouveau préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Il s'agit de Jean-François Manuel. Il remplace Blaise Gourtet, qui occupait le poste depuis juillet 2023. 27 projets de délibération sont inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal de Dumbéa qui se réunit en fin d'après-midi. Parmi ces délibérations, la décision numéro 1 du budget principal de la commune et des budgets annexes. Dumbéa qui accueille aujourd'hui une journée centrée sur la culture calédonienne. Elle est organisée par l'ACAF, l'Association calédonienne pour l'animation et la formation, et rassemble 240 enfants venus de Dumbéa, Païta, Mondor et Nouméa. La journée a commencé avec une démonstration de danse et les enfants participent ensuite à des ateliers jeux et à des animations, explique Sylvain Zwerte Vager, la présidente de l'association.
C'est le regroupement de tous les centres de la CAF. Donc nous avons exactement 6 centres. Et aujourd'hui, on a décidé de tous les rassembler pour nous présenter leurs festivités, leurs activités des 15 jours. Donc c'est l'organisation d'un festival. Et il représente toutes les ethnies de la Nouvelle-Calédonie. Chaque centre représente un pays. Pour leur parler un petit peu de ces différences, puis des coutumes, des us coutumes, etc., qui peut se passer. Voilà, donc c'est ce que nous on appelle le vivre ensemble, mais aussi le faire ensemble. Le matin, ça sera plus des ateliers de jeux préparés par les animateurs de chaque centre. Et l'après-midi, ça sera surtout les retours de leur danse, de leur festivité par rapport à leur propre pays.
Les enfants découvrent donc les différentes cultures en s'amusant et en fin de journée, ils participeront à un défilé et à une élection de Miss.
On est content de venir parce qu'on doit représenter notre centre culturel.
Bien, je suis ici à la hall de Dumbéa et avec notre centre, on va se présenter, on va faire une danse au milieu.
Est-ce que tu t'es présenté pour faire l'élection Miss là cet après-midi?
Oui.
T'aimerais gagner?
Oui.
C'est pour représenter la Nouvelle-Calédonie sur différentes cultures et différentes couleurs et tout. Je fais ça souvent dans les grandes vacances comme pendant les petites vacances.
C'est bien, au lieu de rester chez nous à rien faire, ben voilà, on vient, on s'amuse avec nos amis et voilà.
Des propos recueillis par Marie Romain. Notez que cette journée se poursuit jusqu'à 15h30 à la halle Mimi Castex. Allez, faites vite, il vous reste 8 minutes pour jouer et tenter de gagner des places pour le concert de Patrick Bruel. RRB Radio officiel et partenaire de ce concert, vous le savez, vous envoyez invite au 3146 depuis 11h et vous avez jusqu'à midi pour le faire. À midi, ce sera l'heure du tirage au sort. Il y a 5 places à gagner aujourd'hui. Envoyez donc invite au 3146. En attendant, une pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Vous êtes titulaire d'une licence et vous souhaitez devenir professeur des écoles? Demandez votre admission en première année du Master MEF, mention premier degré à l'INSPE de l'UNC jusqu'au 3 novembre prochain. Pour postuler, téléchargez le dossier sur le site internet de l'UNC ou retirez-le directement à l'INSPE au campus de Nouville. Plus de renseignements au 29 05 00.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et notamment l'actualité politique. Les sanctions contre les membres LR du gouvernement devraient être moins dures que prévu. Le bureau politique des Républicains s'est réuni tôt ce matin pour nous. Rachida Dati, Philippe Tabarot, Annie Genevard, Vincent Jeanbrun, Sébastien Martin et Nicolas Forissy ont rejoint le gouvernement Lecornu contre l'avis de l'état-major du parti. Ils s'étaient retirés de toute fonction au sein des LR. Le président du parti, Bruno Retailleau, avait évoqué leur exclusion, mais la sanction sera plus légère. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Et selon toute vraisemblance, on se dirige vers une simple suspension des 6 ministres LR. Autrement dit, les concernés ne pourraient plus s'exprimer au nom du parti et ils perdraient dans le même temps leur fonction au sein des Républicains. L'idée, c'est de ne pas ajouter de la division à la division en excluant brutalement les personnalités nommées au gouvernement, mais plutôt de tenter d'apaiser les choses. Alors certes, Bruno Retailleau avait promis une sanction, elle sera plus légère qu'attendue, mais l'ancien ministre de l'Intérieur a voulu éviter de donner l'image d'un parti scindé en deux, entre d'un côté les sénateurs, opposés à toute participation au gouvernement, et des députés qui, eux, y sont favorables, même si, nous dit-on, ce clivage est réapparu ce soir au sein du bureau politique, à l'issue duquel Bruno Retailleau doit s'exprimer pour tenter de tourner la page de cette séquence qui a affaibli l'image des Républicains.
Et la suspension des 6 membres LR du gouvernement et non leur exclusion a été confirmée dans la matinée. Agitation à la prison de la Santé où Nicolas Sarkozy est incarcéré depuis hier. 3 détenus qui partageaient une même cellule ont filmé et publié sur les réseaux sociaux des images tournées dans leur cellule dans laquelle ils menacent directement l'ancien chef de l'État. Rapidement identifiés, ils ont été mis en examen pour insultes et menaces à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a indiqué que 2 policiers occupaient en permanence la cellule voisine de celle de l'ancien chef de l'État pour veiller sur sa sécurité. Laurence Descartes, auditionnée par la Commission des affaires culturelles du Sénat 4 jours après le hold-up du siècle et le vol en plein jour de bijoux de très grande valeur. La présidente du Louvre a été questionnée sur l'organisation de la sécurité. Elle a aussi confirmé à cette occasion qu'elle avait présenté sa démission après le vol, mais que la ministre de la Culture l'avait refusée.
Aujourd'hui, nous vivons un échec terrible au Louvre, dont je prends ma part de responsabilité. Je le redis, j'ai présenté ma démission, elle a été refusée. Mais qu'on ne me fasse pas des procès personnels, de dépenses inconsidérées. La sécurisation du Louvre, de ses collections, est au cœur de mes priorités.
Le procès personnel sur des dépenses inconsidérées concerne des travaux de transformation d'un espace de restauration commerciale en salle de réunion. Laurence Descartes s'en est expliquée.
Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre. Elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle. Le montant des travaux liés à la transformation de cet espace de restauration commerciale en salle de réunion modulable est de 497 000 euros, toutes taxes comprises.
La présidente du musée du Louvre a également indiqué qu'elle n'occupait pas le logement de fonction mis à sa disposition. Le directeur de l'Université Paris 8, convoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. La semaine dernière, s'est tenue au sein de son université une conférence ouvertement antisémite, certains étudiants ayant fait l'apologie du terrorisme en applaudissant les images du pogrom du Hamas en Israël en octobre 2023. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Dans cet extrait diffusé sur X, on y entend les étudiants faire l'apologie du terrorisme.
Condamnez-vous le 7 octobre ? Voilà.
Condamnez-vous le 7 octobre. De nombreux étudiants réunis à l'université Paris 8 répondent non. Dans l'amphithéâtre recouvert de drapeaux palestiniens, Georges Ibrahim Abdallah devait prendre la parole. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste et libéré en juillet dernier, il n'est finalement pas intervenu. Malgré son absence, les conférenciers apportent leur soutien au Libanais, le qualifiant de héros. Devant les étudiants, les intervenants glorifient les actions du Hamas et multiplient les appels à troubler l'ordre public en France.
Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette indomptable résistance pour nous engager en première ligne pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a convoqué cet après-midi le président de l'université. Dans un communiqué, Paris 8 se défend face à de tels faits. Aucune tolérance n'est envisageable. Fin de citation.
Il est 11h57. À suivre après la dernière pause de ce journal d'actualité sportive. On retrouvera ensuite les jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ils étaient 2000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 dugongs en Nouvelle-Calédonie. Braconnage, collision avec les bateaux, prise dans les filets, destruction des herbiers. Nos dugongs disparaissent, lentement, sous nos yeux. Il n'est pas trop tard pour les sauver, mais il faut agir maintenant. Si vous voyez un dugong mort ou échoué, appelez le 16. Et si vous êtes témoin d'un acte de braconnage, appelez le 17. Ceci est un message du plan d'action dugong piloté par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, financé par l'État par le biais du Fonds vert et du programme France Nation Verte.
Speed Marine booste son offre carénage pour cette fin d'année. 15% de remise sur votre anti-fouling en donnant le code SPEED2025. Ouvrez votre compte carénage chez Speed Marine et bénéficiez gratuitement du carshare et de l'échafaudage. Partez l'esprit tranquille avec Speed Marine. Retrouvez toutes nos offres sur notre page Facebook.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on ouvre cette page sport avec le football et la troisième journée de la première phase de la Ligue des Champions. Lionel Sabot, Marseille et Monaco étaient ce matin sur les pelouses européennes.
Et on va commencer par Marseille qui était en déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal et les choses ne sont pas bien passées pour les Phocéens qui, après avoir mené au score, sont finalement inclinés 2-1. Marseille qui a fini la rencontre en infériorité numérique et cela a tout changé. À l'issue du match, les Marseillais étaient vent debout contre l'arbitre de la rencontre à l'image de l'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Ce soir, les arbitres n'ont pas du tout été au niveau. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien eu pour nous. Et voilà, après un mi-temps, ils ne nous ont pas créé de problème. Au contraire, je pense qu'on a, on a dominé le match. On a même marqué ce premier but qui nous a fait du bien. Le premier jaune que Emerson prend, c'est scandaleux. Il ne peut rien faire avec sa main. Donc, bon, voilà, enfin bref, après en deuxième période, c'était plus compliqué. Voilà, on était obligé de jouer un peu plus bas. Et bah voilà, après, ils ont poussé et ils ont marqué. Très énervé, mais bon. Voilà, maintenant, place au championnat et on avance.
Ben voilà, pas content du tout, l'avant-centre de l'OM après la défaite des Phocéens sur la pelouse du Sporting Portugal. Sur les pelouses européennes également ce matin, vous le disiez, l'AS Monaco qui recevait Tottenham, c'était au stade Louis II, rencontre qui s'est terminée sur un nul 0-0. Dans les autres matchs de la matinée, l'Athletic Bilbao s'est imposé 3-1 sur Karabag, le Galatasaray s'est imposé 3-1 sur Bodo Glimt, match nul 0-0, bien décevant entre l'Atalanta Bergame et le Slavia Prague, le Bayern de Munich s'est largement imposé 4-0 sur le club de Bruges. Victoire de Chelsea 5-1 sur l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax qui n'a pas gagné le moindre match dans cette compétition. L'Eintracht Francfort a été battu sur son terrain par Liverpool 5-1. Enfin, dans le choc de cette journée, le Real Madrid s'est imposé 1-0 sur la Juventus de Turin. Suite de la semaine européenne pour les clubs français, demain matin pour nous avec cette fois-ci l'Europa League. Lyon le recevra les Suisses du FC Bâle. Nice sera en déplacement sur la pelouse des Espagnols du Celta Vigo. Et enfin, Lille recevra les Grecs du PAOK à Salonique. Et puis, en Ligue Conférence, n'oublions pas Strasbourg qui recevra les Polonais de Białystok.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Il est midi. Dans un instant, restez bien avec nous. Ce sont les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, avec les responsables nationaux du MEDEF. On se retrouve dans un petit instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.